Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Coucou, c'est Mimi et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boys Club. The Boys Club, si jamais tu débarques, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux, je reçois un homme qui me parle de son rapport à son genre. Aujourd'hui, c'est un boys club avec un bel accent québécois et un peu de musique puisque je suis avec Olivier Dion. Salut Olivier.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas?
Ben écoute, je m'appelle Olivier Dion, mais tu l'as bien dit en disant que je suis j'ai un accent québécois, donc je viens du Québec et je suis un chanteur. Je viens tout juste récemment de sortir un album, ce qui explique un petit peu aussi ma venue en France.
Tout à fait.
Et voilà, les gens m'ont découvert entre autres dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires que j'ai fait en 2016 et 2017. J'ai fait aussi Danse avec les Stars, ça remonte à 2015. Et donc voilà, c'est un petit peu même. Voilà, pour restituer les gens, ce serait ça.
Et donc, tu n'as pas de lien de parenté avec Céline Dion?
Non, j'aime pas trop le dire, mais en vérité, je suis son père.
Wow, amazing. Je sais pas trop comment ça marche au niveau temporel, t'as l'air un peu plus jeune.
Ça, mais ça, c'est des secrets qu'il faut pas dévoiler.
Ok. Alors, on est là pour parler masculinité et essayer de dresser un panorama de plein de façons différentes d'être un homme. Donc, la première question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme?
Tu sais que c'est ça, limite, ça me stresse d'avoir à parler de ça parce que c'est quand même très, très difficile de mettre en mots vraiment ce qu'on pense de ce qu'est un homme ou même ce qu'est une femme. Je pense en tant que femme, ça doit être difficile de dire qu'est-ce qu'une femme. On est des êtres humains à part entière et moi j'aimerais bien croire que l'homme et la femme, sans trop parler d'égalité, mais j'aimerais bien croire que l'homme et la femme sont absolument égaux, mis à part le fait que voilà, physiquement on est très différents puis on a des particularités différentes, mais être un homme aujourd'hui, en 2019, qu'est-ce que c'est? je pense que c'est très différent de ce qu'autrefois on pouvait penser d'un homme. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes, j'ose espérer qu'ils sont des êtres peut-être plus sensibles, plus vulnérables, ou en tout cas qui hésitent moins à cacher cette vulnérabilité. Et voilà, je pense qu'être un homme en 2019, c'est aussi embrasser parfois son côté un peu plus féminin, je pense, et l'assumer en tout cas avec plus d'assurance.
Qu'est-ce que tu définis comme ton côté féminin, toi?
Oh là là, ça c'est une autre bonne question.
Il y a que des bonnes questions dans ce podcast.
Le fait de, je sais pas, je pense que le fait de prendre soin de soi un petit peu, je pense qu'à l'époque un homme qui prenait soin de lui déjà se caractérisait peut-être moins comme un vrai homme. À l'époque, on parlait d'hommes, je pense, c'était vraiment, c'est un peu peut-être le cliché, mais l'homme qui travaille de ses mains, et puis voilà, l'homme fort, tandis qu'aujourd'hui, ben, l'homme peut prendre un peu plus soin de sa personne, de son image, de son bien-être, et être tout aussi viril.
Comment tu prends soin de toi? C'est quoi ta routine? Ta morning routine?
Ma morning routine, tous les matins, je me réveille, je prends ma petite douche et j'ai une petite crème hydratante que je me mets. Je pense que c'est ma seule routine. Quoi? Non, je prends soin de mes cheveux aussi.
Tu mets des masques?
Très rarement, mais ça peut arriver. J'ai déjà pris des rendez-vous dans des cliniques esthétiques pour faire des masques. Parce que, tu vois, après une tournée où tu te maquilles à tous les jours, ben, j'avais l'impression, puis apparemment c'était bien pour ma peau, de faire un masque. Et donc, voilà, je suis allé prendre rendez-vous et j'ai fait un masque pour moi. Et bon, voilà, c'est ma façon de prendre soin de ma peau et de me dire que je vais vieillir beau et en santé.
Est-ce que t'as kiffé faire un masque?
Franchement, c'est agréable.
Ouais. Quand est-ce que t'as commencé à te mettre de la crème hydratante tous les jours?
Il y a quelques années.
C'était quoi le déclic?
C'était bien. Je pense qu'au départ, je devais faire un peu d'acné dans le début de ma vingtaine, mais j'ai jamais fait beaucoup d'acné, mais c'était de bien hydrater ma peau, puis j'ai toujours entendu que c'était bien de le faire. Et puis, voilà. Puis après, en vieillissant, tu te rends compte que je pense que c'est important de prendre soin de sa peau si tu veux qu'elle a l'air saine et en santé plus longtemps. Donc, j'ai commencé à mettre de la crème hydratante. C'est un petit peu pour une raison... c'est peut-être un peu superficiel, mais ouais, c'est ça.
Bah, c'est pas superficiel de vouloir se trouver beau.
Et oui, de prendre soin de soi. Ouais, de prendre soin de soi et d'être bien dans sa peau.
Tout à fait.
Avec une peau hydratée.
Ce qui marche bien généralement dans ce podcast, parce qu'en fait, tous les invités disent que c'est pas facile de répondre à la première question. Et c'est bien pour ça qu'on la pose. C'est parce que le but, c'est que ce podcast, en général, arrive à commencer à esquisser une réponse, mais personne n'a la même réponse. Et tout le monde est un peu déboussolé.
Ben voilà,
quoi.
Mais est-ce que quelqu'un a la vraie réponse à cette question?
Probablement pas.
Voilà.
Car probablement, il y a plein de façons différentes d'être un homme.
Complètement.
C'est ça qui est cool. Mais du coup, ce qui marche bien pour définir peut-être quel genre d'homme t'es devenu, c'est de réfléchir à quel genre d'homme tu étais. Donc, en commençant par quel genre de petit garçon t'étais?
Quel genre de petit garçon j'étais?
Ouais. T'étais comment quand t'étais gosse?
Parfois dissipé, parfois excité, parfois très sage aussi. Tout dépendant dans quel environnement j'étais. Quand j'étais avec des amis, voilà, je pouvais être assez le petit tannant. Petit tannant, on dit ça ici.
Très peu.
Le petit tannant de la classe. Et d'autres fois, ben voilà, je pouvais être aussi le petit garçon. Le petit garçon à sa maman, très, très discret et très, très tranquille. Et toujours un peu à la recherche. À la recherche de la façon d'être cool et puis d'être accepté dans le groupe. Alors que moi, je me suis relativement senti toujours accepté, mais j'ai toujours été un petit peu en quête C'est dur à répondre comme question, quel genre de petit garçon. J'essaie de me rendre intéressant tout ça en parlant, mais je sais pas tout.
C'est toujours intéressant, t'inquiète. T'avais beaucoup d'amis?
Ouais, j'ai toujours eu beaucoup d'amis. Après, j'ai eu quelques meilleurs amis. J'étais pas du genre à avoir des grands groupes d'amis. Après, bon, à l'école, t'as toujours... Mais après, j'étais un petit peu l'ami de tout le monde, je pense.
T'étais assez populaire, quoi.
J'étais assez populaire, ouais, je sais pas. J'ai eu cette chance-là.
Est-ce que t'avais des amis garçons et des amis filles, ou que des amis garçons ou que des amis filles?
J'avais plutôt des amis garçons. Après, les filles, c'était un rapport différent, mais j'ai eu des amis de filles quand même. Ouais.
Est-ce que tu penses que vos activités, du coup, avec tes amis garçons, est-ce que c'était les activités typiques des petits garçons, genre on fait la bagarre, on joue aux voitures, on fait du foot? Ou alors, est-ce que la culture du foot est aussi présente au Québec? Je ne sais pas. Peut-être que vous ne faites pas du foot.
J'ai joué au foot quand j'étais plus jeune. Et le foot, après, la majorité des jeunes garçons, on jouait tous au foot à partir de genre 8 ans jusqu'à 12 ans. Puis après, ça changeait un petit peu. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le foot est de plus en plus populaire. Mais à l'époque où moi, je jouais, après ça, c'est plus le football américain, le basketball et tout. Puis j'avoue qu'à mon adolescence, j'étais pas tout à fait le garçon typique à faire les sports, alors que les gens pouvaient peut-être s'imaginer ça. Mais non, à l'époque, j'étais plutôt dans les arts, déjà. Et dans le théâtre, dans la musique, dans la chanson.
Comment t'es arrivé à la musique et la chanson?
Disons que c'est un peu mon père qui m'a un peu guidé vers la chanson, parce que lui-même chantait. Lui-même a commencé à chanter, mais il a commencé à chanter assez tard. Il avait 27 ans. Et il a intégré un groupe de notre région. Un gros groupe, en fait, qu'ils étaient 70 sur scène. C'était un groupe amateur, mais qui faisait des spectacles corporatifs. Ils en faisaient quelques-uns par année. Et très jeune, j'allais le voir en spectacle. Et donc, et souvent même, pendant le spectacle, à un certain moment, ils faisaient monter certaines personnes de la salle. Et je montais donc à 7-8 ans, j'étais sur scène et tout pendant un moment. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné mes premiers amours pour la scène, c'est à ce moment-là. Et puis je commençais à chanter dans la voiture avec lui et tout. Puis c'est lui qui m'a un peu initié à me dire bon, tu vas prendre des cours de chant parce que t'as un vrai talent, il faut l'exploiter. Et ben c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à faire un peu du chant. Puis après, la musique, j'ai jamais été un grand musicien, c'était beaucoup plus la chanson à l'adolescence.
Ok. Est-ce que c'était aussi un truc social pour toi? Est-ce que tu avais des amis dans tes cours de chant, dans tes cours de musique, ou est-ce que c'était plutôt personnel?
Non, pas trop, en fait. Je te dirais que la musique, c'est drôle. Étrangement, j'étais pas du genre à crier sous tous les toits que je chantais. Même que la plupart des gens à l'école, dans mon entourage, n'étaient même pas au courant que je chantais. J'avais pris un peu même tout le monde par surprise quand pour la première fois dans un spectacle de fin d'année, j'avais chanté une chanson, puis là, tout le monde fait « mais il chante », et puis, ben oui. Mais non, c'est pas grâce à la musique. Je me suis jamais entouré, à cet âge-là, je me suis jamais entouré de gens qui étaient passionnés de musique ou de chansons. D'ailleurs, ça m'aurait peut-être fait du bien. Quoique plus tard, oui. Plus tard, j'ai eu des potes qui jouaient de la guitare, on grattait ensemble et on faisait différentes choses, mais très jeune, non.
Pourquoi tu penses que tu partageais pas ça avec les autres?
Je sais pas. Parce que je pense qu'à l'époque, tout ce qui était relié aux arts, tu vois, c'était peut-être moins intéressant de le partager que tout ce qui était relié au sport. Et justement, ça faisait peut-être un peu moins viril, un peu moins masculin. Donc du coup, c'était peut-être... Pour moi, j'avais l'impression que c'était moins impressionnant d'être bon chanteur que d'être un bon sportif.
Pourtant, c'est dur d'être un bon chanteur.
Ouais.
C'est du taf. Comment ça se passait? Est-ce que tu as des frères et sœurs?
J'ai une sœur, ouais. Okay. J'ai une sœur plus jeune.
Plus jeune? Mm-hmm. Comment ça se passait vos relations, du coup, en grandissant?
On a toujours été un peu chien et chat, ma sœur et moi. On s'est toujours aimés, mais on s'est toujours un peu chamaillés. Ouais, ça a toujours un peu été ça.
Et avec tes parents, du coup, en fait, on a beaucoup d'invités du podcast qui ont un rapport un peu compliqué à leur père.
Ah ouais,
qui ont
okay.
un père qui, alors parfois, est carrément absent, c'est-à-dire leurs parents se sont séparés, le père n'est pas trop resté dans la famille. Mmh. Mais parfois, c'est un père qui est physiquement présent, mais qui juste ne parle pas beaucoup. Un peu le cliché du père taiseux, qui s'ouvre pas et qui ne. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui ont jamais dit je t'aime à leur père. Ou alors vraiment. Une seule fois dans leur vie, quoi. Et après, il y en a avec qui ça se passe très bien et qui ont un rapport plus intime avec, avec leur père. Toi, c'était quoi ta relation avec ton père?
Eh ben, moi, j'ai toujours une très, très bonne relation avec mes deux parents. Et puis, on s'est... En fait, très jeune, j'ai compris que c'était bien de leur dire que je les aimais, puis eux, de me dire qu'ils m'aimaient. Puis, j'ai jamais eu de complexe par rapport à ça. Et on a toujours une relation super ouverte où... assez en confidence, en fait, où je me suis assez souvent confié... à mes parents. Je leur confiais pas nécessairement tous mes plus grands secrets, mais...
que tu vas révéler dans ce podcast.
Ouais, c'est ça. Mais encore aujourd'hui, mes parents, c'est comme mes amis, en fait. Et puis on discute, et puis j'ai pas peur de leur raconter différentes expériences. Et puis je pense qu'ils sont contents aussi de m'accompagner, en quelque sorte, là-dedans.
Est-ce que tu penses, alors c'est peut-être difficile à dire quand on a vraiment grandi dans la culture, mais on a eu un invité du Boys Club qui s'appelle Martin Winkler, qui est un médecin et auteur qui a 60 ans. D'accord. Et lui, il est français, mais maintenant il vit au Québec depuis 10-15 ans. Et en fait, il a découvert au Québec une forme de bienveillance, d'empathie et d'égalité qu'il connaissait pas du tout en France.
Okay.
Et qu'il a aidé à se réconcilier un peu avec ses émotions et sa vulnérabilité et sa sensibilité, tout ça. Alors, du coup, lui, il a vu la différence parce qu'il a vécu en France. Toi, t'as grandi là-dedans, mais est-ce que tu penses que dans la culture québécoise, c'est courant d'avoir ce genre de relation, notamment père-fils, avec de l'amour qui est librement exprimé? Ou est-ce que tu penses que ça restait quand même un peu exceptionnel, la relation que t'as avec ton père?
Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Puis je pense que c'est très subjectif, dans le sens qu'il y a des familles... pour qui il y a des gens qui ont des super bonnes relations père-fille, père-fils et même chose du côté de la mère, mais je sais pas si c'est propre à la culture québécoise ou à la culture française. Moi, je suis arrivé ici il y a 3-4 ans déjà, donc je sais pas. Je sais qu'au Québec, on est réputé pour être des gens qui sont chaleureux, qui sont peut-être plus attentionnés, mais... je sais pas. Après, je pense que ça dépend toujours de qui tu rencontres, ça dépend de qui tu t'entoures. Un peu, je pense que c'est peut-être une question de chance aussi, hein, quand tu tombes, voilà, tu tombes dans... c'est dommage, mais quand tu tombes, voilà, moi je pense que je suis tombé dans une bonne famille, puis je me considère très chanceux de ça, parce que j'ai des amis pour qui ça n'a pas été le cas, puis on était au Québec, et puis voilà, j'ai des amis qui ont eu des très mauvaises relations avec leurs parents, puis pour qui c'est encore très difficile aujourd'hui. Et donc, je pense que voilà, c'est propre à chacun.
Ok. Est-ce que tes relations dans tes, avec tes amis, elles étaient bienveillantes? Parce qu'il y a aussi un truc souvent dans les amitiés viriles, on va dire les amitiés entre hommes, même parfois dès l'enfance, qui n'est pas forcément très bienveillant, qui n'est pas forcément très sain, où c'est un peu de la compétition et du tirer les autres vers le bas pour se sentir au-dessus au lieu de tirer tout le monde vers le haut.
Bah, je pense que, alors, je peux dire qu'on a tous connu ça en étant un jeune garçon ou garçon, mais moi je l'ai connu. Je me souviens que j'avais des amis avec qui des fois je sentais que j'étais plus en position de supériorité ou d'autorité. Je me souviens que je l'exerçais par rapport à un groupe, par rapport à des certaines situations, et puis j'y repense, et puis j'y repensais déjà auparavant, puis c'est comme il y a un truc un peu malsain, mais je pense que c'est ça, c'est la, je sais pas si c'est la nature humaine des fois de vouloir un peu se mettre en valeur, puis se mettre en position de force. Mais je pense que quand t'es garçon, et oui, puis des fois c'est pour plaire aux filles ou pour plaire aux autres, ou tu vas être en compétition avec d'autres garçons.
Ça se passait comment avec les filles?
Ça se passait comment?
Est-ce que t'avais du succès avec les filles quand t'étais ado?
J'avais du succès avec les filles, par contre, j'étais hyper timide, et c'est quelque chose qui me créait beaucoup d'angoisse, les filles. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, parce que justement j'avais du succès, les filles venaient vers moi, puis j'avais peur de ne pas être capable de leur livrer ce qu'elles attendaient. Et très jeune, vraiment, je me souviens.
Comment ça s'est passé du coup avec ta première... c'était à quel âge que t'as eu ta première petite copine officielle?
Aïe, 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 je devais avoir quel âge j'avais, non? C'était au primaire, donc j'avais... c'est pas très officiel, quoi, mais je me souviens de mon premier baiser, mon premier bisou. C'était pas une belle expérience du tout. Je me sentais limite forcé par mes amis, ou nous, on se sentait forcé par nos amis qui nous regardaient de loin nous embrasser, puis je me souviens que c'était comme... c'était pas du tout agréable comme et puis je pense que c'est peut-être ça qui m'a fait peur d'ailleurs pour la suite.
ça t'a pas donné envie de recommencer?
Non, c'est ça, j'étais comme oh là là, c'est vraiment moins bien que ce que ça en a l'air.
Est-ce que le fait d'être déjà chanteur et musicien, en tout cas d'avoir cet aspect créatif et artistique dans ta vie, tu penses que ça a joué dans, parce que donc l'amour c'est très émotionnel hein, par définition, est-ce que c'était une façon de... Est-ce que la musique était un peu un exutoire pour toutes ces émotions dont tu savais pas forcément quoi faire envers les filles?
Non, ben oui, oui et non, mais c'était surtout dans ce que j'allais chanter, dans ce que j'allais écouter. J'ai commencé à écrire assez tard, en fait, assez récemment, si on veut, dans les dernières années. Donc, quand j'étais jeune, l'écriture pour moi c'était pas du tout une forme d'exutoire. Par contre, je pense que mon répertoire de chansons et ce que j'aimais interpréter reflétait beaucoup ce que je ressentais par rapport aux filles ou par rapport à mon sentiment. Ouais.
Mais du coup, tu le faisais entre guillemets dans ton coin, puisque c'était pas forcément un truc que tu partageais.
Plus dans mon coin, ouais. Plus dans mon coin. Moi, mes moments préférés, c'était souvent quand j'étais dans le bus et puis j'écoutais ma musique. Et souvent, en fait, je pense que si t'écoutais ma playlist que j'écoutais quand j'étais au... c'est quoi, c'est le lycée qui est avant le collège, c'est ça? Le collège?
Non, c'est le
collège qui
était
avant le lycée, que j'écoutais quand j'étais au collège. C'est probablement que des chansons hyper tristes, de cœur brisé. Ouais, vraiment. Ouais.
Écoute, pareil, je pense que vraiment beaucoup d'enfants
mais
de 13
en même temps,
ans.
Mais j'aimais ça, c'est comme. C'était ouais, peut-être une petite forme de sadomasochisme.
Est-ce que t'étais un peu émo comme ado?
Non, j'étais pas émo, mais après j'écoutais de la musique triste. Mais j'étais pas. Vraiment emo, non.
T'étais contre la vie du bus avec la pluie qui tombe et t'écoutais des chansons de cœur brisé. Je vois l'ambiance. Ouais. Comment, du coup, entre le premier baiser foireux avec vos potes qui vous regardent de l'autre bout de la cour en disant « Allez-y » et la première fois que tu t'es senti bien avec une fille, en termes de couple, il s'est passé combien de temps et comment ça a...
Aïe, aïe, beaucoup de temps. Bah, moi, en fait, au collège, j'ai presque jamais eu de petite amie. Je pense que j'en ai pas eu, en fait. J'ai eu des filles que... En fait, les filles que je trouvais très, très jolies et intéressantes, souvent, c'était pas avec elles que ça fonctionnait. Donc, ça a mis vraiment beaucoup de temps avec une relation, sérieuse. C'était pas avant mes Mais 17 ans, je pense. Mais 16, 17 ans, 18. Ouais, c'était vraiment...
Oh bah c'est un âge... Ça va, tu vois, c'est pas 30 ans, quoi.
Ouais, ouais, non, mais encore là, puis même ma première relation à 17 ans, c'était pas une relation incroyable non plus, tu vois.
Pourquoi ça
je la cherche encore, cette relation incroyable, en fait.
Ça s'est passé comment, cette première relation de couple un peu sérieuse?
Comment ça s'est passé?
Enfin, qu'est-ce qui fait que c'était pas incroyable, tu vois?
Ben, en fait, parce qu'à un moment donné, on dirait que des fois, tu te dis... qu'il faut que tu te fasses une copine ou que tu dois être en couple. Je pense qu'on a cette pression là en société de dire que il faut avoir une petite amie. Parce que tes amis en ont et puis parce que c'est la normalité des choses, c'est cool d'en avoir une. Donc je pense que au final je me suis souvent mis avec des filles seulement pour la raison de me mettre avec elles et non pas forcément parce que j'étais en fou amoureux d'elles. Et donc, ça fait toujours en sorte que y a des doutes. Et puis, c'est dur d'être en relation avec quelqu'un alors que t'es en questionnement aussi. Voilà.
Tu te questionnais sur quoi?
Sur mes sentiments par rapport à la personne. À savoir si je faisais le bon choix. J'étais probablement trop de questions. Je suis déjà à me poser souvent trop de questions pour rien, je pense. Ce qui fait en sorte que t'es toujours un peu dans ta tête plutôt que dans le moment présent. Puis dans le fait de juste apprécier quelque chose.
Est-ce que tu les partageais, ces questions, avec des amis ou tes parents ou ta sœur ou...
Oui, non. Oui, avec des amis, forcément. Oui, forcément. Je partageais, mais je ne sais plus trop qu'est-ce qui en sortait de ça.
Mais au moins, c'était possible. Enfin, tu pouvais dire, je me prends la tête, j'arrive pas à savoir si j'aime vraiment cette fille ou pas.
Ouais, ouais.
Et c'était pas bizarre de faire
oui,
ça.
Oui, puis souvent,
quoi.
Je me suis rendu compte que c'était un pattern. Et après ça, il y a aussi le fait que plus jeune, j'étais aussi tombé amoureux d'une fille avec qui ça n'avait pas fonctionné. Puis j'ai eu cette fille-là en tête pendant très, très, très longtemps. Et donc après, tu te rends compte que quand il y a un truc qui n'est pas vraiment fini ou qui n'est pas abouti, c'est très, très difficile de passer à autre chose, même si tu essayes avec quelqu'un d'autre. Et donc, souvent, à un moment, je me suis rendu compte que c'était un pattern qui revenait. Puis, tu te rends compte que... tu t'en rends pas compte, t'es jeune, mais un jour, tu te rends compte que pour être bien avec quelqu'un d'autre, il faut vraiment que tu sois bien avec toi-même et que tu sois libre aussi dans ta tête.
Est-ce qu'on peut parler de ta première fois à première fois?
Première fois, première fois?
Mm-hmm.
Oh! J'ai jamais parlé de ça.
Ah ouais?
Ouais.
Est-ce que t'as envie ou
surtout
t'as pas envie?
J'en ai déjà parlé, mais surtout pas au bout d'un micro comme ça.
T'as
est-ce qu'on parle
non.
de ma première fois? Est-ce qu'on en parle? Peut-être, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux savoir de ma première fois?
Est-ce que quand t'as fait ta première fois, tu savais que t'allais faire ta première fois? Ou est-ce que c'est arrivé genre dans le feu du moment? Parce que parfois, surtout quand t'es adolescent, t'as pas forcément un endroit, tu vois, t'as pas ton propre appart
ouais.
et tout. Donc tu fais
un
rendez-vous...
Non, c'était pas prévu, mais après c'est quelque chose que tu t'y en attends, même tu te dis bon là ce moment-là va venir, et ça me stressait énormément ce moment-là. Ouais, j'étais. Si je peux te dire un truc de ma première fois, c'est que j'étais hyper nerveux.
Est-ce que c'était aussi flippant que, enfin une fois que t'es devant le fait accompli, est-ce que tu te dis ah j'ai eu tellement peur pour pas grand-chose, ou est-ce que tu te dis ok c'est vraiment technique?
Non, je me suis pas dit que j'avais peur pour pas grand chose parce que je me suis dit que justement, en fait, ça me stressait. Puis ma première fois, ça s'est vraiment mal passé. Franchement, c'était pas cool. C'était pas cool. C'était pas la première fois rêvée, disons. Donc après, tu te dis bon, est-ce que ça va être comme ça tout
c'est juste
fois?
Ça.
Et donc voilà.
Je pense que c'est un des grands mythes autour de la première fois, c'est que c'est un genre de moment magique, alors qu'en fait, c'est généralement...
T'en entends parler tellement toute ta vie, puis la façon qu'on voit l'amour en général dans les films, justement, les bisous, les scènes d'amour et tout, tu te dis, ça a l'air génial. Puis la façon que t'en entends parler, que tout le monde cherche le sexe, tout le monde parle de sexe et tout, ça, apparemment, c'est la meilleure chose au monde. Donc quand t'arrives pour ta première fois, et puis tu te dis, aïe, aïe, aïe.
Ah.
Mais ça se fait pas seulement quand ça se fait pas en claquant des doigts de trouver ce bonheur absolu-là. Mmh.
Généralement, heureusement, ça s'améliore avec la pratique, mais la première fois est rarement
exact.
La meilleure. C'est comme la première crêpe. Elle est souvent un peu ratée.
C'est ça.
Est-ce que tu penses que tu as eu une bonne éducation sexuelle? Parce que c'est un truc dont on parle beaucoup sur Mademoiselle et en France en général. notre éducation sexuelle à l'école, elle est pas ouf. Vraiment, on apprend genre la biologie de la chose, genre comment on fait des bébés et vite fait mettez des capotes.
Je pense que non, je pense qu'on n'aborde pas assez la sexualité d'un angle psychologique où justement c'est pas que de savoir comment mettre un condom, c'est tout l'aspect genre tout l'aspect psychologique. Moi ça me stressait beaucoup, puis je me demandais si j'étais si c'était normal ou si c'était. Je me suis souvent senti seul un petit peu par rapport à cet aspect-là de ma sexualité au début. Et j'avoue que je pense que c'est peut-être pas assez abordé dans l'éducation.
Est-ce que c'est un truc dont tu pouvais parler avec tes parents ou pas?
Plus ou moins. Ça, c'est probablement un des sujets que j'osais pas aborder avec mes parents.
Est-ce que tu leur as dit?
Je trouvais ça un petit peu toujours awkward d'en parler avec mes parents. C'est comme, j'ai pas vraiment envie de savoir. J'ai pas envie que ce soit eux qui me conseillent par rapport à ça. C'est un peu bizarre.
Oui, et du coup, j'imagine que t'étais dans cette situation où toi et tes amis, vous avez les mêmes prises de tête, mais personne n'a les réponses parce que vous êtes tous au même âge. Et...
Ouais, c'est ça.
Du coup, c'est pas les parents, pas l'école, pas les amis. Bon. Ouais. Est-ce que t'as allé chercher sur Internet?
Ouais, bon, après, tu cherches l'inspiration sur Internet.
C'est pas forcément les meilleures réponses.
Non, c'est ça.
Ok. Non, on a parlé de ta première fois, ça va,
ça y est, c'est
pas.
Fait, c'est cool.
Ok.
C'est bien.
Cool.
Hein?
Merci d'avoir parlé de ta première fois.
Écoute, suis un grand livre ouvert aujourd'hui.
Ouais, j'aime trop. Donc là, t'avais 17, tu m'as dit 16, 17 ans, donc ouais. On arrive tranquillement à l'âge adulte. Mmh. Comment ça se passe ta sortie des études et ton arrivée à l'âge adulte avec en plus le fait que tu te professionnalises dans la musique?
Ben à la base, je ne me professionnalisais pas dans la musique. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de musique à l'adolescence, j'ai fait beaucoup de chants, je faisais beaucoup de scènes, sauf qu'à l'âge de 16 ans, j'ai un peu pris une autre direction. Où est-ce que la musique, je la gardais en passe-temps et en loisir, mais j'avais vraiment choisi de... J'avais un peu suivi la vague et puis j'étais allé étudier en business et je commençais mon bac en business, puis ensuite je commençais mon université. Et puis un jour est arrivé la Star Academy. Et quand j'ai fait la Starac au Québec, ben en fait quand la Starac est arrivée, les castings et tout, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour moi de revenir à mes premiers amours. Je ne me trouvais pas vraiment dans cet aspect business, quoique j'aimais beaucoup le marketing et tout, et je pense que je le retrouve aujourd'hui dans ma carrière musicale, mais je savais pas vraiment me situer dans ça. Donc quand la Starac est arrivée, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de replonger dans le champ et tout. Et je suis allé un petit peu je suis allé sans attente et j'avais vraiment aucune croyance que ce serait possible, mais j'ai essayé, puis c'était toujours bon, on verra la prochaine étape, et ça m'a mené très très loin dans le processus, et puis ça a débuté ma carrière qui aujourd'hui n'est pas terminée. Je vais toucher un peu de bois pour qu'elle continue encore longtemps.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment t'as abordé la Starac, c'est pareil qu'en France, j'imagine. Donc il y a un côté télé-réalité qui est moins... alors c'est pas Big Brother, mais il y a quand même un côté télé-réalité qui te propulse dans une visibilité médiatique incroyable. Ouais. Comment t'as abordé ça? Parce qu'en plus, tu me dis que t'avais un côté assez pudique quoi, en grandissant. T'étais pas forcément ultra... un livre ouvert à tous
non,
les niveaux.
Non, pas du
quoi.
Tout. Puis... En fait, la Starac, bon, cet aspect de télé-réalité, à l'époque, jamais j'aurais fait une télé-réalité, proprement dit, télé-réalité. Ce qui est intéressant de la Star Academy, c'est que c'était très focalisé sur nos talents, c'était sur les cours qu'on avait, c'était sur les rencontres qu'on faisait avec les artistes. Donc pour moi, je trouvais ça intéressant. Par contre, cet aspect de télé-réalité-là qui était présent malgré tout, me stressait beaucoup, il me mettait quand même beaucoup de pression. Parce que j'ai jamais été celui qui était le plus confiant par rapport à l'image que je dégageais, ce que les gens pensaient de moi, ça a toujours été important, puis ça a toujours été présent dans ma vie. Donc quand tu te retrouves filmé 24/24 à te dire faut que je paraisse bien en tout temps, faut que je sois aimé, ça amène quand même une espèce de pression.
Et avec le recul, si c'était à refaire, tu referais la Starac?
Absolument. Ça a été quand même une expérience incroyable. Et je la referais, j'aimerais bien la refaire aujourd'hui avec le bagage que j'ai, tu vois. Je pense que je le vivrais différemment, je le vivrais de façon plus libre et plus détendue, je pense.
Comment tu gères le côté compétition? Dans la musique, enfin dans les arts en général, c'est un truc qu'on imagine moins. Mais il y a quand même un côté se mettre en avant, vouloir réussir, ouais. Vouloir toucher les gens. En plus, la Starac, c'est une compétition, donc il y a des éliminations et tout. C'est quoi ton rapport à la compète?
Je sais pas, des fois je me sens compétitif, d'autres fois pas du tout. Dans la musique, dans les arts, pour moi, je vois pas vraiment de compétition en soi. Mais alors qu'il y a une compétition énorme, mais la compétition est plus au niveau business. C'est plus, je pense que les labels voient la compétition. Nous, après, on fait nos trucs. Je pense que le but, c'est de ne pas la voir, la compétition. Je pense que quand on fait nos propres choses, on doit pas s'imaginer en train de faire des choses parce qu'il y a une compétition qu'on veut dépasser ou qu'on veut... Je pense que sinon, ça perd un peu de son sens. Et après ouais, mais c'est un milieu où des fois je me suis remis en question à savoir si en tant que moi-même, en tant qu'artiste, j'étais assez capable de me mettre en avant quand j'en vois d'autres. Tu vois il y a des artistes et des stars qui parfois t'as l'impression qu'ils ont des égos surdimensionnés qui vont se mettre en avant, qui sont flamboyants et qui hésitent pas, qui ont peur de rien, alors que moi j'ai quand même si ça paraît pas, je pense que les gens me voient pas comme ça, mais j'ai quand même été assez souvent et longtemps introverti. Je me suis donc demandé si j'étais vraiment dans la bonne branche ou dans le bon milieu et si j'avais vraiment ce qu'il fallait pour me vendre aussi bien que d'autres le font.
Qu'est-ce qui fait que t'es resté du coup quand t'as eu ces doutes?
J'ai encore parfois ces doutes aujourd'hui, mais j'aime trop ce que je fais. Il y a quelque chose qui est vraiment cool et qui est parfois très difficile avec ce métier. C'est un métier qui t'amène à des endroits, qui m'a amené à des endroits où j'aurais jamais imaginé. Qui me fait voyager. La chanson, j'adore, la musique, ça me passionne. Donc voilà, je continue.
Est-ce que tu as eu des mentors dans ta carrière musicale?
Pas beaucoup, non. Franchement, j'ai pas eu de modèle vraiment où je me suis dit... après, il y a des artistes que j'apprécie plus que d'autres, mais j'ai jamais été fan en me disant, je sais pas, je vais vraiment m'inspirer de lui, puis j'ai envie de suivre un peu ses traces.
Après, ça peut être des gens qui ont bossé avec toi, peut-être plus dans l'ombre, mais des profs de chant ou des gens qui t'ont fait piger un truc sur ton rapport au public,
oui,
à la scène.
Non, je me suis trompé. Des mentors, ouais, j'en ai eu. Et j'ai des amis, en fait, qui sont dans la musique depuis longtemps et que j'ai rencontrés il y a quelques années. Au départ pour le travail, puis pour la composition de chansons, mais qui sont devenus très proches, qui sont devenus aussi donc des mentors. Et puis des gens qui étaient là pour partager avec moi dans des moments, des fois, justement, de remise en question. Je pense que c'est important d'avoir des mentors, je pense, parce que justement, c'est un milieu, des fois, qui est tellement instable et tellement... difficile et parfois sournois, puis que tu contrôles. Il y a tellement de paramètres incontrôlables que parfois c'est bien d'avoir des gens à qui te confier, qui sont aussi passés par là, puis qui vont t'aider juste à te recentrer.
Comment tu vis le fait d'avoir un métier qui exige une forme de vulnérabilité, puisque t'es obligé de mettre de toi là-dedans, mmh. et de mettre de tes émotions là-dedans? Mmh. Ce qui n'est pas forcément, comme tu disais au début, les critères de masculinité les plus évidents. On pense rarement à la sensibilité, par exemple.
Ouais. C'est dur, mais j'ai eu de la difficulté à mettre cette vulnérabilité-là de l'avant depuis quelques années. Et franchement, je pense que je commence tout juste à le faire et puis j'ai envie de le faire. Puis je me rends compte que je me suis longtemps censuré. Par rapport au public, par rapport aux gens, par rapport à mon image dans les médias. Et que les gens me connaissent probablement pas du tout comme ils me connaîtraient dans la vraie vie. Après, bon, t'es pas obligé de tout dévoiler, comme je fais aujourd'hui. Mais, ouais, voilà, je pense que j'ai envie d'exploiter ce côté plus sincère et que les gens me découvrent comme je suis. Puis je pense que. Je me suis rendu compte aussi en vieillissant avec le temps que les artistes que je préfère sont les artistes qui sont souvent le plus à nu et le plus authentique. Et je sais pas pourquoi, on dirait que je me suis longtemps caché, je pense, derrière une espèce de mur. Peut-être pour me protéger du public ou des yeux de je sais pas qui. Et j'ai envie de m'amuser puis de laisser un peu plus tomber cette barrière-là.
Donc dans ce nouvel album, tu penses que t'es plus vulnérable que tu t'as pu l'être
Je
dans
suis
ton précédent...
un peu plus. Ouais. Pas encore autant que dans le prochain.
Ok.
Mais j'ai plus. Ouais.
Est-ce qu'il y a un titre spécifique où tu te dis, ok, là j'ai passé un... Genre ce titre-là aborde des sujets dont j'aurais pas pu parler il y a 5 ans, par exemple?
Non, je dirais pas dont j'aurais pas pu parler. Par contre, il y a des chansons qui parlent beaucoup plus et qui sont beaucoup plus près de moi, de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens. C'est une chanson comme est-ce que ce que je voulais, parce que mon album est en anglais principalement, mais j'ai quand même des titres en français. Et puis ces titres en français, je voulais, c'est important pour moi que le français aborde justement des sujets peut-être plus proches de moi. Comme j'ai une chanson qui s'appelle Souvent j'ai peur, qui relate un petit peu de mes incertitudes et de mes doutes dans les derniers temps, par rapport au métier, par rapport au fait que tout va vite et puis que voilà, il y a des choses que tu contrôles pas et des fois tu penses au moment où ça s'arrête et puis tu te demandes un peu ce que tu vas devenir et puis ce que t'es aux yeux des gens ou ce que tu vas être, avec quoi tu vas ressortir de tout ça. Et donc oui, je pense que c'est une des chansons où je suis le plus transparent. Après, il y a d'autres chansons qui parlent de vrais faits vécus. Dont personne n'est au courant, mais voilà, tu le caches un peu dans une chanson, puis c'est intéressant.
Je vous laisse décrypter l'album d'Olivier Dion pour en trouver. Ouais. Tu parlais de mettre un genre de mur, peut-être pour te protéger du public. J'allais justement te demander, en fait, t'as acquis de la notoriété assez vite, assez fort. Du coup, t'es devenu une figure publique, pas du jour au lendemain, mais en tout cas très rapidement, ouais, pas loin. Comment tu vis cette notoriété et le fait d'être reconnu dans la rue, d'être sur scène avec beaucoup de gens qui viennent te voir, qui ont cette idée de toi en tant que personne qui n'est pas forcément 100% la personne que t'es dans la vraie vie? Comment t'as géré tout ça? Parce qu'en plus, t'étais jeune, quoi.
Ouais, je le vis bien, j'ai toujours bien vécu. Par contre, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'avais toujours cette espèce de peur de pas plaire assez ou que des gens, voilà, ou cette espèce de peur qu'il y a des gens qui m'aiment pas, parce que quand tu sors d'un espèce de programme populaire ou de programme télévisuel populaire comme la Starac, qui est vu par la majorité au Québec, la Starac c'était regardé par 60% du public, c'était 60% de part de marché, c'était un phénomène.
Ah ouais, t'as plus de la moitié du pays entier.
Et donc après, tu te dis, ben là, maintenant, j'ai tous ces gens-là qui m'ont vu. Maintenant, il faut que je plaise à tous ces gens-là. Et donc, je me suis un peu perdu là-dedans. Et puis, je pense que ça a été un de mes soucis de devenir très connu du jour au lendemain. Alors que j'avais même ce souci-là avec ma propre personne au départ. Et puis, je pense qu'à 20 ans, t'apprends beaucoup à te connaître toi-même en tant que nouvel adulte et en tant qu'humain. Et d'apprendre à te connaître en étant connu, après c'est très différent, ça change un peu la donne.
Comment est-ce que t'as géré, j'imagine que t'as ce qu'on appelle des groupies, donc des meufs qui t'aiment et qui aiment ce que tu fais, ouais. Et qui peut-être aimeraient bien plus y affinité.
Oui, après ouais, s'il y a ce côté-là, Après, oui, il y a des fans qui me perçoivent d'une façon. J'ai des fans, je pense que j'ai des fans qui pensent que je sors avec elle. Donc, mais écoute, quand je suis sorti de la Starac, la première couverture de magazine que j'ai vue, c'était pendant que j'étais à la Star Academy. Vous savez, quand on est à l'académie, on est coupé de tout média et, oui. de tout à l'extérieur. Quand je suis sorti, j'ai vu que j'avais fait la couverture d'un des plus gros magazines culturels du Québec. Et ce qui était écrit, c'était... le grand titre, c'était « Sexe symbole malgré lui ». Et là, j'étais... Et donc, déjà, oui, ça te met dans une espèce de case où, ça y est, t'es pris pour un sexe symbole, t'es pris pour un beau gosse. Et ça fait en sorte que maintenant, t'as l'impression que la seule chose dont les gens parlent par après, c'est du fait que tu sois beau. Et tu te fais poser des questions que parce que t'es beau. Et tout le monde ramène tout ça toujours à ton physique. Donc, pour moi, ça a été quand même un peu spécial. Et c'est encore une espèce c'est encore une espèce de bataille aujourd'hui de voir toujours un peu m'expliquer par rapport à ça le fait que les gens me trouvent beau. Et j'ai toujours trouvé ça un peu délicat et un peu même difficile d'y répondre en entrevue. Mais ouais, après ça, les fois, les fans te perçoivent d'une façon. Après, il y a un côté qui est très flatteur aussi. Moi, que les filles me trouvent jolie ou m'aiment bien, moi, ça me fait plaisir, je vous cacherai pas. Non, mais...
On a pas mal parlé de ton rapport à la musique et au chant. Je voulais parler un peu de ton rapport à la danse, qui est encore un sujet très intéressant, qui rentre directement dans la corporalité. Il y a un aspect sportif, il y a un aspect sensuel, il y a un aspect très minuté de « il faut se rappeler des pas » et tout. C'est quoi ton rapport à la danse à la base?
Mon rapport à la danse, moi en fait, j'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours aimé voir des danseurs s'exprimer en dansant. J'ai trouvé ça toujours magnifique et très impressionnant. Parce que j'ai toujours... je pense que secrètement, j'ai toujours voulu danser. Et justement, quand j'étais jeune, je voyais... c'était très rare, les mecs qui dansaient. Et donc, quand t'avais des mecs qui dansaient le hip-hop à l'école, et qui dansaient bien, c'est très, très cool. Mais en même temps, t'avais un côté très, très marginal, dans le sens qu'un mec qui faisait de la danse, c'était perçu d'une façon. Voilà, c'est bizarre, mais on dirait que j'ai toujours voulu danser, puis je ne l'ai jamais fait. Et voilà, mais je trouve ça magnifique, la danse. Je sais pas.
Du coup, est-ce que tu avais de l'appréhension? Enfin, quand tu n'as jamais dansé, la première fois que tu danses après des années à vivre sans danser, ça peut être flippant, ça peut être grisant, ça peut être plein de choses. C'est quoi ton rapport à la première fois que tu as dansé pour de vrai, quoi?
J'ai trouvé ça cool. La première fois que j'ai dansé pour de vrai, c'était dans un contexte de comédie musicale, quand j'ai fait Hairspray au Québec. Et j'ai trouvé ça cool, mais par contre, c'était très, très, très compliqué. J'ai mis 2 mois à apprendre 2 minutes de chorégraphie. Mais j'ai trouvé ça cool. Mais pour moi, tu vois, c'était plus normal de le faire maintenant que j'avais une raison, j'avais un contexte. Mais je regrettais à l'époque de ne pas avoir dansé plus jeune.
Du coup, tu dansais pas en soirée et tout
Non, j'étais vraiment pas du genre à danser en soirée. Franchement, j'ai commencé à danser en soirée à quel âge? Peut-être. Mais il fallait que je sois bien bourré quand même. Franchement, danser à jeun, c'était très dur. Ça n'a pas été mon style jusqu'à tout récemment.
Tu parlais d'entretien au tout début de ce podcast, de prendre soin de soi. Ça passe aussi par le sport et l'entraînement. Est-ce que ton rapport au corps a changé avec la danse ou avec le sport en général? Est-ce que tu, dans ta routine, du coup, il y a l'hydratation, prendre soin des cheveux? Est-ce que tu fais du sport régulièrement?
Ouais, je fais du sport régulièrement, j'essaye. J'ai toujours fait du sport, en fait. Puis j'ai intégré le sport à mon mode de vie, si on veut, assez tôt. Vers les 15, 16, 17 ans, je m'entraînais beaucoup. Et ça ne m'a jamais quitté. Et puis après, même dans mes habitudes de vie, le fait de bien manger, puis j'essaie de toujours être assez sélectif dans ce que je mange. Et puis c'est important, ça fait vraiment partie pour moi d'un mode de vie sain, puis t'as quelque chose qui fait en sorte que je suis bien dans ma peau. Voilà.
Tu fais quoi? Tu pousses à la salle?
Je pousse à la salle un peu. Oui, en fait, oui, mais... j'ai poussé à la salle beaucoup justement dans mes premières années d'entraînement, comme vers 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, tu veux faire gonfler les muscles. Et après, l'approche est un peu différente. Maintenant, c'est plus dans un aspect, oui, de garder la forme et de ne pas prendre de poids en mangeant trop, mais surtout de me sentir bien. Donc, je mélange beaucoup de cardio puis de sport en général.
Est-ce que t'as des complexes?
Bah oui.
C'est quoi tes complexes? Genre, un complexe.
En fait, moi, il y a plusieurs. Ça arrive très très souvent que je me regarde et que je ne m'aime pas. Et souvent, je vais voir des photos de moi, je vais me trouver moche et je me trouverai pas aussi beau que sur d'autres photos. Et puis, je vais avoir l'impression que les gens me trouvent plus beau que je ne le suis en vrai. Et donc, ça, c'est mon plus gros complexe. Donc, ce serait ça, mon complexe.
Parce qu'il y a le côté, genre, les gens voient des photos et des vidéos de toi qui sont hyper travaillées, avec une belle lumière et tout, et t'as peur que s'ils te croisent au Starbucks, ils fassent...
Ouais, que ce soit différent. Puis c'est ça, il y a toujours cette espèce de truc qui me revient souvent, puis qui, bon, un peu moins qu'avant quand même, mais le fait de pas être à la hauteur, que les gens se font une image de toi et qu'ils s'attendent à voir un truc de toi, et puis qu'au final, ils soient déçus. Je pense que c'est la peur de décevoir. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que je fasse une psychanalyse par rapport à ça pour trouver d'où ça vient.
T'as jamais été voir de psy?
Non, pas de psy à proprement dit, non.
T'as vu un...
Ouais, j'ai vu une coach en... Comment on appelle ça? En PNL, la programmation neuro-linguistique. Tu connais?
Ouais, c'est quoi?
En fait, c'est une espèce de...
C'est le truc de langage non-verbal et de...
Non, c'est par rapport à des expériences que tu as vécues quand tu étais petit, voire bébé. Et des choses qui t'auraient marqué, que t'aurais senti. C'est très par rapport au subconscient, si on veut. C'est une espèce
de... Les trucs que t'as enfoui, mais qui restent là quand même?
Oui, genre. Okay. Et donc, qu'apparemment, tu peux déprogrammer, si on veut. J'ai fait quelques séances parce que je trouvais ça intéressant, mais... J'ai pas poussé à fond l'expérience.
Est-ce que c'est la base de choses que j'aime bien. Tu es allé avec une requête spécifique de type en fait j'ai pour prendre l'exemple que tu disais, j'ai l'impression d'avoir toujours peur de décevoir les gens.
J'ai jamais été du genre très très anxieux, mais j'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété dans la dernière année et par rapport à mon métier, par rapport à plein de choses et puis j'ai une amie qui avait vécu l'expérience avec cette dame qui faisait qui avait cette méthode et donc elle me l'avait fortement recommandé, puis je me suis dit que j'allais essayer.
Et comment elle fait du coup pour revenir à des... Parce que bon, ce qui est arrivé quand t'es bébé, tu t'en souviens pas trop.
Ouais,
quoi.
C'est ça, donc tu te mets en espèce de...
Un peu en hypnose?
Genre d'hypnose, méditation profonde, tu vois. Genre... voilà.
Ok.
Ou t'essaies de laisser parler les images qui te viennent et ton subconscient. Après, c'est très... C'est un peu ésotérique, mais...
Oh, mais ça peut marcher.
C'est intéressant.
Okay. Est-ce que du coup, ça a calmé ton anxiété?
Je pense que ça a calmé des choses, ça a changé des choses, je pense, mais ça n'a pas tout réglé.
Ça serait trop facile. Un jour peut-être, tu finiras.
Ouais, ouais.
Tu auras fini, tu seras là, bon, ça va, tout va bien, à 75 ans.
Oui, c'est ça. Okay. J'ose espérer que j'aurai une certaine paix d'esprit totale.
Yes.
À 80 ans.
On a bien parlé, j'ai deux dernières questions pour toi. Est-ce que t'es prêt? Il y en a une facile et une pas facile.
Est-ce que t'es prêt? C'est une des deux questions?
Non, c'est la troisième.
Ok.
Ok, la première question, normalement, t'es prévenu. C'est la question que je pose pour parler de sexualité et de complexe aux gens. Ok.
Ok.
Olivier, comment va ta bite?
Elle va plutôt bien.
Ouais?
Ouais.
Est-ce que vous avez des bons rapports tous les deux?
Je réponds vite parce qu'en vrai, je savais qu'elle allait mal poser. On m'avait averti.
J'évite de surprendre les gens.
Comment va ta bite? Elle va très bien, merci.
Cordialement. Non, voilà. En vrai, on peut s'arrêter à elle va très bien. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Je te demande pas la taille ni une photo, tu vois. Mais plus, en fait, est-ce que t'as un rapport cool avec ta sexualité? Et est-ce que t'as.
Aujourd'hui, oui.
Ouais.
Aujourd'hui, oui. Par contre, en grandissant et à l'adolescence, ça a été quand même plus difficile où il y avait beaucoup de... c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Donc, je me dis, voilà, pour les gens qui se posent des questions et qui sont pas forcément bien avec leur sexualité jeune, sachez que ça peut être... que c'est très normal. Et puis, voilà, on n'a pas les réponses à toutes les questions. Puis c'est en vivant, puis en vieillissant. Puis il faut se donner le droit aussi d'avoir peur des fois, puis de se poser des questions.
Super.
Voilà.
Je suis très d'accord. La dernière question que je vais te poser et que je pose à tous les invités de ce podcast, l'idée c'est un peu de faire une galaxie de rôles modèles masculins diversifiée et cool dont les auditeurs et auditrices pourraient s'inspirer. Donc, comme à tous les invités, je vais te demander, est-ce que tu as une idée d'homme réel ou fictif qui, pour toi, représente une vision positive de la masculinité ?
Est-ce que j'ai une idée d'homme qui... Non, j'ai pas d'idée.
Il y en a qui n'ont pas de... Il y en a qui n'ont pas d'idée.
J'ai pas d'idée. Un genre d'homme idéal.
Un homme inspirant. Après, le truc, c'est qu'il n'est pas obligé de cocher toutes les cases, tu vois. Mais tu peux dire, tel homme, j'aime bien parce que, je sais pas, il a un rapport trop cool aux animaux et je trouve que c'est cool de montrer que tu peux être un homme et aimer les chatons. Tu vois, j'invente complètement, mais ça peut être... Dans les exemples, on a eu Justin Trudeau, une fois ou deux.
Ah oui, ok.
On a eu ouais. Barack Obama.
Bah, si j'allais dire, en fait, j'allais dire Barack Obama.
Bah, tu peux dire Barack Obama.
Je dirais Barack Obama. Je trouve que sa façon de... Quand tu regardes tout ce qu'il a accompli, sa façon d'être, sa façon de parler, d'être engagé, c'est un homme brillant. Et quand tu regardes la relation qu'il a avec sa femme, avec sa famille, pour moi, je pense qu'il se rapproche d'un homme idéal, de ce qu'on en voit.
Oui, peut-être voilà. Qu'il a des secrets, après, des noirs voilà, secrets.
De ce qu'on en voit, tout n'est pas parfait.
Merci beaucoup Olivier de t'être
merci,
confié.
Merci à toi.
C'était top. On peut donc retrouver ton nouvel album Exposed.
Exactement.
Partout et
partout,
dans la
partout.
Description du podcast.
Exact. Donc allez l'écouter.
Oui. Allez écouter les chansons qui parlent de trucs secrets qui sont arrivés dans la vraie vie.
C'est excitant.
Merci beaucoup Olivier. Bisous.
Bisous, bye.